Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit que c'était le Démogorgon.
Ça veut dire qu'on est piégés, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Hello!
J'ai fait un gros bâillement, bonsoir.
Ça y est, c'est l'été. J'ai retrouvé mon short et mes plus belles tongs, tout au fond d'un placard avec des scuds d'Alain Souchon.
C'est des paroles de qui?
C'est le destin qui me fait un signe. Plus ça va et plus j'y pense, il serait peut-être temps que je prenne des vacances.
Ah, j'allais dire, ça rime jamais en plus.
Mais tout d'abord, il faudrait que je trouve des fringues, un maillot de bain, des sombreros, un maillot de bain, des des trucs de dingue. Et ouais, je suis un original, c'est ça la classe. Bon, je file au magasin et après, je me casse.
C'est vraiment ChatGPT?
C'est sûr, c'est ChatGPT.
C'est pas ChatGPT.
C'est Chihuahua.
C'est pour le Chihuahua. Vraiment, on tombe dans la beaufitude dans ce podcast.
C'est paroles incroyables sont celles de notre ami Koé.
Oh là là. Attends, ça c'est la voix de Koé.
Là.
Ah oui, d'accord.
J'adorais cette chanson en 2003.
Oui, mais t'avais quel âge?
J'avais 11 ans. Ouais. Allez.
Ah bah non.
Oh, c'est bon.
Bah Mathilde est en train de faire un arrêt cardiaque dans tous les cas. Donc.
Je préfère quand les moustiques me piquent finalement.
Oh.
Y a aucun rapport entre les deux.
C'est désagréable.
Par contre, je pensais vraiment que c'était ChatGPT. Ce qui donne le niveau de ChatGPT, c'est à peu près Koé en 2000, du coup. C'est bon à savoir.
C'est vrai. On va commencer cet épisode.
Oui.
C'est le 32e épisode du Récapito. Il est avec Mathilde. Bonjour Mathilde, comment ça va?
J'ai envie de dormir et je me suis fait dévorer par les moustiques. Et vous?
Bah moi ça va.
Ouais, pareil.
Et bonjour Damien, comment ça va?
Bah du coup ça va bien. Moi j'ai été piqué par un ou deux moustiques cette semaine, mais... mais apparemment on s'en fout. Ah bon.
C'est très méchant.
Non, ça fait un petit habillage sonore quand je parle, j'aime bien.
L'impolitesse, bon,
ça
est
donne
là,
un peu l'impression de... Tu sais, quand t'arrives sur TF1 et qu'il y a un bandeau qui déroule et que c'est déjà un peu dans une ambiance...
Moi je trouve que c'est de l'impolitesse. Pas gentil.
Bref, du coup, oui, moi ça va. Pardon.
Oui, non, c'est juste que je suis un peu à l'arrache ce soir. Désolé. Cette semaine, ce mois-ci plutôt, ce mois-ci, on va parler de Ted Lasso sur Apple TV+. On va aussi parler de Vinland Saga sur Netflix
et Crunchyroll.
Ouais, c'est sur les deux.
Et on va parler de Besoin d'amour sur OCS
avec Laurie.
Moi j'ai rien c'est vu vrai. Apparemment.
J'avais mis les gouttes de Dieu et c'est parti.
C'est pas moi.
Quelqu'un l'a enlevé.
Bah personne n'a touché.
Les gouttes de Dieu sur Netflix. Mais avant.
Non, c'est sur.
C'est sur Crunch.
Ah c'est sur Apple.
Apple TV+.
Ah, bon, du coup.
Les gouttes de Dieu sur Apple TV+.
Ah mais vous avez un abonnement Apple TV+.
Si c'est vrai, en plus, jusqu'au 30.
Frérot, t'as les codes canal gratos, donc...
En plus, ils arrêtent demain mon truc de jeu. J'ai payé jusqu'à
alors qu'avec
demain.
Les codes canal, du coup, c'est non-stop, a priori.
Mais avant de négocier et de parler des séries, on va parler d'actu. Mathilde, t'as des annonces à faire?
Moi, je sais pas si c'est... Oui. Enfin, c'est une annonce, mais après, je sais pas si ça sera du positif ou du négatif. La bande-annonce de One Piece en live-action est sortie sur Netflix. Ça sera une série qui sera dispo le 31 août.
Moi, je pense que ça peut être bien.
Tu l'as vu la bande-annonce ?
Oui, tu me l'as envoyé. C'est vrai. Mais parce que l'histoire principale est... Enfin, l'histoire des mangas et tout est un peu datée et un peu longue quand tu veux rattraper maintenant. Mm. Alors qu'en vrai, elle est quand même pas si mal, l'histoire.
Non, j'ai lu le tome 1 il y a 3 jours parce qu'on m'a obligée. Et je me suis dit, ouais, c'est marrant. Mais par contre, voilà, j'ai lu, je lirai pas la suite.
Oui,
quoi,
mais tu n'as pas 10 ans, malheureusement, tu n'es pas le public.
Non, malheureusement, je ne suis pas le public. Mais j'ai trouvé ça très marrant, le goût du truc risque et tout. Ouais, non, c'est des pirates, quoi, c'est très intéressant. Mais ouais, après, j'ai regardé la bande-annonce et je me suis dit, ben, c'est pas si moche visuellement, ça passe, je sais pas. Après, moi, j'ai aucun affect avec le manga et l'œuvre originale.
L'acteur
donc,
qui joue Luffy.
Ouais.
A l'air sympa.
Ouais. Non, mais je sais pas.
En même temps,
après, ma question, c'est...
Ah, en tant que personne.
Je sais pas si ça va être une saison unique, parce que bon, bah, sinon, ils sont partis pour toujours.
Ils bouclent une saison, là, à peu près.
15 ans, je crois, à peu près.
Ouais, je pense qu'ils sont, ils sont partis pour 8 millions d'années de série.
Le problème, c'est que les gens vieillissent dans la vraie vie.
S'il y a 10 saisons, ils partent sur 10 films.
Mais ils peuvent... c'est pas un film, c'est une série.
Ah oui, pardon, c'est une série. Bah, c'est 10 saisons, c'est pas non plus...
Mais ils peuvent pas partir sur 10 saisons, l'acteur, il va vieillir.
Ah oui.
One Piece, Luffy il vieillit pas dans le manga.
Jusqu'à 40 ans.
Bah, il vieillit dans le manga, Luffy, mais par contre, il part de plus jeune, quoi.
Il part quand il est... Ouais, c'est un enfant, il a 10 ans dans le manga, à tout casser au début.
On verra bien. Là où ça nous mène.
Moi, après, comme je dis, j'ai pas d'affect.
Faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Ouais. Et ils ont fêté les 20 ans du manga l'année dernière. Donc, il est toujours en cours. On est au tome 104 actuellement, pour information.
C'est beaucoup. C'est beaucoup trop.
Tu veux pas donner ton avis?
Donne ton avis sur les gum-gum. Sur le fruit du démon que Luffy a mangé.
Alors, je vais me mettre à dos tous les fans de One Piece. C'est juste complètement con. T'as dit, la règle, c'est...
Il a mangé le gum-gum.
T'es élastique en mangeant ce fruit, mais tu peux plus nager. Et l'exemple que j'ai trouvé, c'est genre, tu manges une tomate, ça te fait voir à travers les murs, mais t'es allergique au potiron. C'est des trucs, ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'est des pirates, alors du coup, c'est un handicap pour eux.
Oui, mais il n'était pas obligé d'être pirate.
Oui, mais il savait pas que le gum-gum
faisait
ça.
Non, mais c'est juste que la conséquence n'a aucun sens avec le bienfait.
Oui, mais c'est juste une règle.
La conséquence, elle est pour tous les fruits. Elle n'a pas de lien. C'est pas genre une conséquence différente par fruit.
C'est en fait, si tu manges les fruits du démon et tu peux plus jamais nager.
Ça reste complètement con.
Mais c'est des pirates. Ils sont tout le temps dans la mer.
Je pense que scénaristiquement, ça les aidait bien de dire que de temps en temps, il y a un enjeu sur le fait qu'ils puissent se noyer.
Non, mais tu vois, si par exemple, c'était...
J'ai pas été assez loin.
Non, mais par exemple, tu vois, c'est... t'as la peau élastique, mais tu ressens plus aucun contact physique. Genre, ta peau n'a plus... Tu vois, là, c'est lié.
Je pense que pour un gamin de 10 ans, c'est un peu plus compliqué de comprendre le...
Non, mais ou alors, tu ressens plus la douleur. Au départ, c'est cool, et après, ça devient un problème, parce que quand tu ressens plus la douleur, tu ressens plus rien.
Eh bah, écoutez, envoyons un message à Oda.
Enfin, je vais pas commencer...
Sensei,
c'est beaucoup trop long, déjà. Enfin, ça fait une heure qu'on parle de One Piece, alors qu'on est que dans les actus, mais on en reparlera quand vous aurez vu la série.
Est-ce qu'on va la regarder?
Bah, je sais pas. Damien, est-ce que tu veux passer d'abord? Parce que j'ai plein de trucs à vous dire après, moi.
Ah bah oui, mais il y a la saison 3 de The Witcher qui sort demain à l'heure où on enregistre.
Et nous
c'est une
sommes
actu.
Le 29
Désolé,
juin.
Désolé, c'est une actu. Et donc ça sort le 22. Et du coup, bah, n'hésitez pas à regarder, ça devrait être bien. C'est la dernière avec Henri.
C'est vrai.
Ouais. Après, ils l'ont fait en 3D, t'inquiète.
Bah non, c'est
Leia Mesworth.
Ah oui, c'est mais c'est pas le même. Alors,
non, c'est pas la même personne.
On verra ce qui va se passer.
Alors, autrement, le 19 juin dernier, je sais pas ce qui a pris après une vidéo, mais sur Twitter, le compte s'est mis à dire « Allez, pendant une heure, je vous balance toutes les infos sur nos films et séries à venir prochainement. » Ça va s'appeler le Prime Video Presents. Alors, je vais vous lire le thread parce que j'ai pas eu le temps de te préparer. Il y a eu d'abord un film ou une série qui s'appelle Numéro 10 avec des gens de la France.
C'est
qui va parler du foot. Une star montante du football doit choisir entre France et Sénégal. Ensuite, je pense que c'est des films. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Sirène avec Alice Paul qui est assez connue et Ramzi Bedia et Shirin Boutella sur la piste d'un serial killer. Une enquêtrice parisienne brillante en criminologie, niçoise intrépide qui ne supporte ni les parisiennes ni de bosser en équipe. film de cliché. Police random sur 20.
Au meilleur Ramzy.
Après, il y a une comédie, La tête dans les étoiles, avec Hakim Djemili, Alice Paul encore. Un trentenaire flemmard sans ambition particulière se retrouve propulsé dans l'ISS. Comédie populaire sociale sur 20. Vraiment, cette liste ne m'emballe pas du tout. À part un film, le prochain film de Michael Mann s'appelle Ferrari, donc il doit parler de Ferrari, avec Adam Driver.
Ils ont bien choisi son acteur.
Ensuite, le nouveau film de Luca Guadagnino, qui a fait Call Me By Your Name, qui fait un film qui s'appelle Challengers avec Zendaya. Donc là, c'est dans l'univers du tennis. Bon, il y a Zendaya. Une série qui s'appelle Nudes, le portrait de trois adolescentes très différentes confrontées à la problématique du cyberharcèlement. Ça a l'air d'être une fiction. En terrasse, un projet de David Voinzon, ça raconte le quotidien de trois amis d'enfance montés ensemble dans une grande ville, soirée, amour, amitié, incertitude et peur. Ok. Il y a une série, on ne sait pas si c'est une série documentaire, mais je pense, qui s'appelle Influence, avec l'agence We Are Influence. Il y aura notamment Iris Mittenard, l'ex Miss France, Miss Univers de je ne sais plus trop quelle année. Alors le problème, c'est que We Are Influence est souvent... pointée du doigt parce qu'elle envoie en voyage toute sa clique à l'autre bout du monde pour 3 jours. Enfin, c'est un enfer d'écologie. Il y aura plein de stand-up. Il y aura un film qui va s'appeler Sentinelle avec Jonathan Cohen qui incarnera un flic à La Réunion et chanteur de charme à la ville.
Pardon, mais
c'est... je sais pas quoi penser non plus. Il y a un film avec Eric Judor qui s'appelle Le stupéfiant Noël des Silestone. Ça m'emballe pas trop.
C'est un film de Noël.
J'imagine. Il y a un film avec Géraldine Nakache qui a l'air d'être un peu dark. C'est un thriller. Il s'appelle Tigre et Hyène. On n'a pas plus d'infos. Une saison spéciale de LOL qui ressort, qui s'appelle cette fois LOL qui crie sort, avec interdiction pour les candidats de rire et aussi de crier. Je pense que ça va sortir pour Halloween. Une émission qui partira à la recherche du prochain roi ou de la prochaine reine du stand-up. Ça fait très nouvelle école de Netflix, mais en mode stand-up. Et en parlant de nouvelle école de Netflix, Prime Video ressuscite Popstar, l'émission qui avait révélé les L5, les Link Up, M. Pokora et Sheriff Aluna, notamment. On ne sait pas du tout quoi ça... Voilà. Et la méga-annonce qui avait un peu retourné Twitter, c'est Feuilleman, le film...
Ah, c'est cool ça.
Enfin, que préparent Pierre Ninet, McFly et Carlito, qui est à l'origine une blague dans leur concours Non, j'appelle quelqu'un au hasard. Et Pierre Ninet avait dû appeler, je sais pas qui, une agence, une agente ou une productrice à dire je prépare un film, ça s'appelle Feuilleman et tout. Et bah, Prime Video a dit let's go, faisons ce film.
Mais vraiment, ils essaient de le pousser depuis très longtemps. Enfin, j'avais entendu ça.
C'est vrai?
Ouais.
Eh ben, on verra, mais bon, enfin...
Disait que ça avait ultra marché et qu'en fait, il était un peu sous les limites. Des fois, il y a des gens qui l'arrêtaient dans la rue pour lui parler de ça, alors qu'il a fait plein de films et qu'il était en mode... Oui, bon, bah, cool, mais...
Mais, bah, ça va pas dans le bon sens, en fait. Dans le développement d'un film, c'est pas...
Bah, c'est peut-être le nom les deux, mais...
et tu vois un coup de com' terrible et du coup, tu trouves un scénario. Enfin, en général, c'est l'inverse. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont... emballé dans cette histoire?
Bof.
Moi, je trouve que c'est très bof. Bah,
Feuilleman, ça peut être rigolo, en vrai.
Oui.
Sans... bah non,
ah,
mais
la pop star,
Pierre Ninet, il est quand
marrant.
Même globalement drôle, quoi, du coup. La pop star, c'était quoi?
Bah, pop star, l'émission de...
Ah oui,
de,
l'émission pop star.
De découvreur de talent. Moi, il y a Ferrari, le film avec Adam Driver, qui me dit bien, parce que Adam Driver est toujours cool.
C'est vrai.
On passe... Au Aipito des Pito.
Ah bah oui.
Pito.
Je vais parler de Drag Race France saison 2, dont le premier épisode arrive le 30 juin. Oui, est arrivé le 30 juin parce que quand l'épisode sortira, il sera sorti, demain. Évidemment. Pour nous, c'est demain. Donc on en parlera plus tard dans l'été. Mais la deuxième saison de Drag Race France commence très très fort en invitant ensemble les artistes Christine and the Queens et Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. Ces deux grands artistes queer et ou proches de la communauté queer que j'aime vraiment beaucoup, surtout Nicolas Sirkis que j'aime à la folie. Et cette nouvelle me réjouit fortement. Je suis très 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 content de les voir. Et limite j'aimerais bien qu'ils soient tout le temps là. Mais bon, ça n'arrivera pas. Autre bonne nouvelle pour Drag Race France, l'heure de diffusion sur le flux linéaire. Vous savez, c'est la télé qui s'arrête jamais là.
Ça existe encore ça ?
C'est l'autre manière de dire ça, la ça... télé. Ah.
Le flux linéaire, ça s'est toujours dit.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est trop rigolo.
Eh ben, la diffusion donc à la télé reflète le succès d'audience et populaire du programme. Les épisodes seront diffusés tous les vendredis à 22h55. C'est une très 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 belle case, juste après le prime time du vendredi. Pour rappel, la saison a été diffusée le samedi à minuit, donc à une horaire nettement plus confidentielle. Et évidemment, pas de panique, on retrouve également les épisodes en SVOD sur France.tv tous les vendredis à partir de 18h. Mais c'est, c'est révélateur d'un vrai succès. On en parlait à la fin de la saison 1, en disant si ça marche tant que ça. On commençait à voir les succès au fil de la saison 1, donc on se disait ça marche hyper bien. France 2 avait improvisé de trouver une case dans la saison 1 et ça c'était donc samedi à minuit parce que c'était pas prévu que ça soit à la télé. Et donc là 23h après je crois que c'est une série sur France 2 le vendredi soir, 23h après la série,
ouais, c'est pas mal.
C'est plutôt très chouette, c'est hyper cool. Je vous laisse la parole les amis.
Ah moi je peux, ça va être très rapide. Moi et Bito c'est Zelda.
C'est pas du tout
une série.
Il y a des cinématiques.
Oui, mais quand même.
À des moments. Et beaucoup de cinématiques.
On transfère Damien sur le Play Pito.
C'est ça.
Bah, ça
le
peut être un
podcast mensuel des jeux vidéo.
Bah non, mais du coup, j'ai pas vu beaucoup de séries.
C'est plus le Mea Culpa.
Oui, le Mea Culpa Pito. Mea Culpa Pito.
Et Mathilde ?
Alors, on est le 29 juin 2023. Et aujourd'hui, il y a une énorme annonce. Il s'avère que l'incroyable shoujo Sign of Affection, qui est édité par Akata en France, et dont le collector sortira le 13 juillet, il me semble, aller l'acheter, il va être incroyable.
L'acheter en librairie.
Oui, il va avoir une série animée, voilà, ça a été annoncé aujourd'hui. Et c'est pas la seule nouvelle qu'on a eue ce mois-ci, il y a également un anime de À tes côtés, qui est également un shoujo incroyable, dispo également chez Agata. Et évidemment, à partir de juillet, du 5, il me semble, il y aura My Happy Marriage, qui est également un énorme shoujo sur Netflix. Tout ça pour dire qu'on est en train d'aller vers une nouvelle phase du monde où le shoujo est en train de dominer le monde.
Non, ah mais... oui, tu veux dire que le shoujo remplace le shonen?
Non, pas du tout.
Des gens.
Pas du tout. Mais en gros, c'est... il n'y en avait plus, en fait. Il n'y avait plus de shoujo animé, où il y en avait très très peu. Et là, on repart vraiment sur... sur un mood où il y a des shoujo qui ont été annoncés. D'ailleurs, je vais parler d'un shoujo qui est incroyable dans ce récapito. Et moi, je suis trop contente parce que tout le monde... Enfin, ça passe souvent inaperçu. C'est toujours le shonen, le seinen, les gros trucs
de
tout le monde côté. La bagarre, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et tout ça. C'est trop bien. Mais il y a des romances de ouf. Et surtout, des romances super bienveillantes. Et je suis trop contente qu'elles soient adaptées en anime et que... ça va toucher vachement plus de monde que les mangas. Et ouais, je suis trop content. Et il y a quand même deux de ces titres qui sont de chez Akata, donc à mon avis, ils doivent être en train de faire la fête, là. Faut faire la fête.
Eh ben, sortons le champagne.
Ouais, j'ai trop hâte de découvrir ces adaptations. Bon, elles vont pas arriver tout de suite, hein, mais en tout cas, je vais suivre ça de près.
Là, c'est que des annonces, donc maintenant, il faut
les créer. Ouais, voilà, c'est des annonces.
Ok. On va passer maintenant aux séries et pour ça, on va écouter une bande-annonce.
Salut tout le monde!
Ted! Que diriez-vous d'un cocktail, Coach Lasso?
Je dirais la même chose que si Diane Sawyer me proposait de sortir avec elle, avec plaisir.
Nous sommes en direct du stade des Lévriers, c'est le 8e match nul pour Richmond.
Combien de matchs vous faut-il pour déclencher le mode urgence?
Il y a deux modes que je n'aime pas, le mode urgence et le mode sommeil. Je me fiche du score. Tout ce qui compte, c'est qu'on continue à croire qu'on va arriver exactement où on a prévu d'arriver.
Est-ce que ce fameux adage employé dans le sport, ne jamais abandonner, ne devrait pas s'appliquer dans la vie en général ?
Cette belle métaphore marche pour beaucoup d'autres chemins de vie.
L'équipe est un peu poisseuse, c'est tout.
On devrait peut-être embaucher un psychologue du sport.
Je vous ai apporté une petite surprise pour votre premier jour.
Je mange pas de sucre.
Vraiment ? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne mange pas de sucre. Apparemment, ces gens-là vivent tous dans une ville bobo appelée Santa Monica. Vous êtes fan des discussions entre filles, vous, pas vrai ?
Ce type que je fréquente, John...
Stamos ?
Non, il s'appelle John Winsnight.
Il aime les pubs, c'est le genre à dire, c'est lundi, ce soir, c'est moi qui paye ma tournée.
Vous voulez bien arrêter ?
Règle numéro 1. Même lorsque c'est une discussion de filles, il faut parfois savoir dire, je suis tout ouïe.
Mais il fait quoi, Ted ?
Il doit avoir le mal du pays. Il a trouvé ce qui se rapproche le plus du pick-up.
Chez nous, quand une équipe joue mal, on ne dit pas qu'elle est poisseuse. Qu'est-ce qu'on dit, coach ?
Coucou les Jets de New York.
On parle de... la saison 2 de Ted Lasso qui compte 12 épisodes allant de 30 à 50 minutes. C'était sorti en 2021 sur Apple TV+. Et Mathilde et moi l'avons regardé. Ça parle toujours de l'entraîneur de football américain Ted Lasso qui est recruté par Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond, pour entraîner son équipe de football. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce sport, le nouvel entraîneur tente de se faire accepter, de combler ses lacunes sportives par son optimisme, sa détermination et des biscuits. Mathilde, est-ce que tu veux parler
J'avais
de cette incroyable série ?
J'avais totalement oublié qu'on en avait déjà parlé. Du coup, moi, j'étais partie du redébut. Genre, disant, c'est une série qui fait du bien. Elle débute avec des épisodes courts en mode sitcom à la The Office. Et puis... puis finalement, on s'attache aux personnages, ils sont trop cool. La série essaie d'aborder plein de thèmes importants. Enfin, tu vois. Et après, là, je suis en train de pas dire les thèmes parce que je me rends compte que j'aborde des thèmes de la saison 3 au lieu de la saison 2. Parce
Tout est mélangé.
Ouais, voilà, c'est clairement un gros tas de merde, comme dirait Roy Ken. Désolée. Et oui, sinon, voilà, j'adore le personnage de Roy Kent. Il est vraiment trop cool. Et j'ai envie de faire partie de la meute des magnifiques.
C'est l'équipe ?
Non.
Mais je suis une femme, du coup, je peux
pas. La meute des magnifiques, c'est vraiment. C'est la série a réussi à rendre un boys club sympathique et mignon. Parce qu'en fait, c'est tout le staff de l'équipe de foot tous les mecs du staff qui se réunissent et qui font des
d'amour.
Chiens. Et quand la meute des magnifiques se réunit, ils font « Ah oui !» Ça a énervé Slo deux ou trois fois.
D'accord.
Et bah du coup, je vais pas dire le reste parce que moi, je pensais que c'était... On allait aussi parler de la saison 3, donc ça n'a aucun sens. La saison 2, elle était bien. J'étais trop contente de retrouver cette série en vrai. Et je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, je suis un peu... On est sur la fin là, de la saison 3 et du coup, je suis plus dans le mood de « c'est fini, voilà la conclusion » que « oh, c'est trop bien, on est en plein milieu. »
Ouais. Et ben la saison 2 est toujours aussi bien que la première. La série entière est un biscuit. Réussir à autant personnifier la gentillesse, c'est incroyable. Et je parle évidemment de Ted Lasso. J'ai jamais vu un personnage avec autant de bonté en lui. Je pense qu'il a inventé la bonté. On ne peut pas ne pas aimer ce personnage, même si dans cette saison-là, il est un peu plus torturé que dans la première. On lui montre des failles. On le creuse psychologiquement, finalement. Et c'est d'ailleurs une super idée d'avoir ajouté au personnage une psychologie. Ça permet à la série...
Moi, j'imaginais qu'il y avait une vraie psychologue.
Qui faisait oui, il y a une vraie psy aussi.
Ah oui, d'accord.
Ça permet à la série de développer plus en profondeur les personnages et de parler aussi de santé mentale dans le sport. Et puis, tu l'as dit, Mathilde, que dire de Roy Kent, un des personnages et le plus drôle des séries de ces dernières années. C'est une sorte de Maxi Bougon.
C'est un ours.
C'est un ours tout le temps ronchon. Lui, pour le coup, il a inventé la ronchonitude. Mais il est très gentil au fond. C'est juste qu'il n'aime pas montrer ses sentiments, ses émotions. Et il est tout le temps en train de râler. Et il est très, très drôle. Et surtout sa relation avec sa nièce, qui est très présente dans la saison 2, où sa nièce est fan de lui. Sa petite nièce, qui doit avoir 8 ans, elle est fan de lui. Elle a un pot à jurons. Et donc lui, il dit tout le temps des gros mots, donc elle se fait plein d'argent. Et y a des leçons de morale entre les deux. C'est trop bien. Tous les personnages de cette saison sont capables de nous faire passer du rire aux larmes. C'est très agréable d'avoir des surprises comme ça. Et c'est toujours un coup de cœur. Je vais enchaîner avec une autre série qui s'appelle Besoin d'amour. C'est la saison 1 que j'ai regardée, qui fait 6 épisodes de 30 minutes, qui est sortie en avril 2023 sur OCS. C'était une série qu'on n'avait pas vue à Sériemania, mais que j'avais envie de rattraper. Ça parle de Marco Delgado, qui a fait carrière dans le porno, mais qui depuis quelques temps est pris d'étranges malaises. Il s'effondre pour un oui ou pour un non, tombe inanimé, comme foudroyé. Après avoir étudié son cerveau, on lui diagnostique un bien étrange et rare mal, Marco a besoin d'amour. S'il ne trouve pas cet amour, si on ne l'aime pas, un jour il s'effondrera et ne se relèvera pas. C'est une série parfaite à binge-watcher, que j'ai regardée en un week-end, parce qu'elle n'est pas très longue. Besoin d'amour fait partie de ces séries sans prétention, mais dont on se souvient. Elle est bien réalisée, bien interprétée. Le personnage principal est très attachant, en grande partie grâce à la sympathie naturelle de son acteur qui s'appelle Fred Hazan et qui est aussi le créateur de la série. J'aime bien aussi parce que c'est une comédie romantique qui parle d'un gars, mais sans les clichés habituels des héros solitaires, des comédies romantiques, qui sont souvent des golden boys archi-BG qui n'a pas le temps de trouver l'amour et qui ne voit pas que sa meilleure amie est folle de lui. Il est vraiment très normal, Marco Delgado, voire un peu pathétique. Et donc ça change, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Pas de panique aussi, le porno n'est jamais au centre de l'intrigue. C'est juste vraiment une spécificité du personnage, mais on le voit jamais en fait. À partir du moment où il fait son premier malaise, il arrête tout. Donc on voit juste ses fesses en intro de la série, et c'est tout.
Okay.
Et au contraire, la série casse le fantasme de l'acteur porno puisque Marco est profondément seul alors qu'il a couché avec des milliers de femmes. C'est lui-même, qui le dit. Il y a un pote à lui qui arrête pas de demander « Mais t'as couché avec combien de meufs en vrai ?» Et il dit « Je sais pas moi, entre 3000 et 5000. Mais j'ai pas compté. »
Est-ce que je peux poser une question ?
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de Maxence Danet Fauvel dedans ?
Je crois savoir de qui tu parles. Il est hyper cool. C'est vraiment un personnage très secondaire.
Parce que moi, je voulais regarder cette série que pour lui.
T'auras peut-être été déçu parce que à part qu'il est mignon et qu'il a un look d'enfer.
Il a un look d'enfer.
Il est très très à l'arrière-plan. Il a aucune intrigue personnelle. Il fait que accompagner quelquefois. On le voit dans 10 secondes dans chaque épisode.
Ah, triste.
Non, tu aurais été déçu si tu voulais regarder la série pour lui.
Un des persos de Scam que j'adore.
Pour la petite histoire, si je vous raconte un peu ma vie, j'avais très envie de faire cette série parce qu'on y retrouve une partie de l'équipe de ce que j'estime être la meilleure émission de radio que j'ai écoutée dans ma vie. Ça s'appelle Le Soir Chaud de Camille Combal, qui fait notamment une apparition dans la série et qui est plutôt marrant. Et on retrouvait un personnage qui s'appelait Fredo le Voyant et qui n'était nul autre que Fred Hazan, le créateur et acteur principal de la série. Marrant. C'était sur Virgin Radio, je ne l'ai pas dit. Ça a duré qu'une saison. Personne ne les écoutait, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient.
Mais le nom n'a pas de sens.
C'était très drôle.
Est-ce que c'est l'émission où il a fait gagner des iPhones ? Non, c'est pas la même.
Non, ils ne faisaient rien gagner, personne ne les écoutait.
Oui, du coup, ça ne marche pas.
Voilà, okay. Je vous laisse enchaîner avec...
Demon Slayer. Parce qu'on a vu la saison 4 qui comptait 11 épisodes de 25 minutes. Et...
Le premier ou le dernier fait une heure ? Les deux font une heure ?
Ah ouais ?
Le dernier, premier, il fait 50 minutes en tout cas.
Ah bon ?
Ah ouais, je l'ai vu il y a 2-3 jours.
C'est passé méga vite à mes yeux.
Mais
t'es saoulé.
Non, non, il était vraiment long parce que je m'en suis rendu compte en le voyant. Que je me dis, mais c'est pas possible, ça s'arrête pas.
Non, mais j'étais content. Bah, du coup, c'est sorti là, hein, en mai.
Ouais,
ça
fait longtemps que ça diffuse.
Bah, ça fait 11 semaines.
Exactement. Non, il y a eu des pauses en plus, je crois. Ils font toujours des pauses de middle saison, je sais pas quoi.
Bon, globalement, ça fait 2-3 mois que ça sort.
Allez, raconte-nous l'histoire.
Eh ben, en plus, j'ai trouvé un petit synopsis. L'épée de Tanjiro étant très endommagée suite à son combat contre Gyutaro et Daki, il se rend dans un village de forgerons pour la faire réparer. Dans le village de forgerons, d'ailleurs, il n'y en a qu'un.
Des jumeaux démoniaques.
Oui. En parallèle, Muzan, furieux, confie une nouvelle mission aux sbires qui lui restent. Les sbires, c'est les lunes démoniaques.
Ouh là là, t'as l'impression qu'ils... Ouais, aux sbires qui lui restent, genre, c'est un peu les nullos. Mais d'accord, dis-donc.
Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison ?
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que la saison s'appelle Le Village des Forgerons. Et spoiler alert, tout se passe au Village des Forgerons. C'est incroyable.
Ah, bah, c'est cohérent.
Oui, voilà.
C'est incroyable. Bon, après, si vous aimez Inosuke et Zenitsu, bah regardez pas cette saison. On les voit pas. Les seuls personnages principaux de cette saison sont...
Bah, ils ont réintroduit trop de monde. Du coup, il y a le pilier de la brume, mais j'ai pas son nom. Le pilier de l'amour, mais j'ai pas son nom.
Missouri ?
Missouri.
Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle.
C'est possible.
Missouri.
Et
Tamioka.
Tapioca.
Mio.
Ah non, j'allais faire, je me suis dit non, elle est
Est-ce
pas,
que c'est
bien.
Ça Ah non, c'est pas le même, Tamioka. C'est l'autre, je le confonds.
Mais c'est un truc en Théo, je crois. Attends, parce que du coup... Oui, non, ça c'est celui... Parce que du coup, ils ont aussi réintroduit un type avec un pistolet. C'est le premier type
ça,
avec un
pistolet.
Ça, c'est
Genya.
Lucky Luke.
Mais non, c'est Genya. Ah, c'est Tokito.
Tokito c'est
de la brume.
Vous êtes sûr d'avoir regardé la série?
non mais attends, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de noms.
Les noms, c'est pas facile.
Et moi, je connais juste...
Que des nouveaux
persos
à chacun.
Ah, c'est Missouri. Moi, j'appelle Missouri. Non, mais attends, ça veut dire qu'au travail, à chaque fois que je montre un sap, je dis c'est le sap de Missouri. C'est Missouri, ça n'a aucun sens.
Et regarde en VF.
Ah, je suis vraiment une très mauvaise personne. Oui, du coup, c'est Tokito, du coup, Missouri. Pilier de l'amour.
Et Genya.
Genya, qui est le frère d'un pilier.
C'est pas le pays, c'est Genya.
Genya, qui est le
Attends,
frère.
Le pilier comme.
Oui, madame, j'étais derrière la colonne, comme
Non, pas comme
T'avais
ça.
T'avais prévu qu'on ait parlé de...
Et du coup, il y avait. C'est le frère d'un autre pilier.
D'une colonne.
Mais t'es d'accord que lui, c'est le frère d'un pilier aussi.
Je connais pas son histoire. Il avait l'air énervé, d'un coup, il était gentil, j'ai rien compris.
Mais c'est parce qu'il
histoire.
Bouffe des démons.
Ah!
C'est pour ça, mais il l'a dit à un moment, genre, c'est parce que quand il mange des démons, et il se transforme un petit peu en démon.
Ouais, un peu glauque cette histoire.
Alors, mais c'est le frère du pilier du vent, Sanemi Shinazugawa.
Tu vois, encore un nom. Il y a 12 piliers. Il y a 5 persos principaux et il y a encore plein d'autres
après,
gens.
Après, ils en tuent plein des piliers. En fait, c'est un arc de piliers. C'est une saison de piliers. Là, ils nous en ont présenté 2 plus
en
un
général,
frère.
En général, il y en a qui meurent. Donc en plus, tu peux pas retenir les noms.
Et puis là, t'avais les forgerons en plus. Du coup, vu qu'on est au village des forgerons.
Ah non, mais c'est un enfer de personnages.
Et bien évidemment, il y avait les lunes supérieures qui étaient les méchants. Mais en tout cas, moi, j'étais contente car on voit le pilier de l'amour, Missouri, et elle est trop cool, elle est trop stylée, elle est trop badass. De toute façon, on va pas se mentir, les persos féminins de ce programme sont les meilleurs. Les mecs ne servent à rien, vraiment. Tanjiro, Sanetsuko, qu'est-ce que c'est ?
Allez.
Rien du tout.
Bah, celui de la brume, ça va.
Hein ?
Le pilier de la brume, ça va.
Ouais, mais je parle pas de ça.
Ah oui, tu parles que des persos principaux ?
Bah ouais.
Ah oui.
Vraiment ? Bah oui. Tanjiro sans Nezuko. Mmh. Voilà.
C'est un peu que Sam sans Frodon, quoi. Non, l'inverse.
Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette saison. Après, il n'y a pas eu énormément de retournement de situation. J'ai trouvé que tout le monde s'en sortait plutôt facilement. J'ai pas trop...
À la fin, moi, j'ai pensé qu'il allait y avoir un twist. Hein.
Mais non, il n'y en a pas eu. j'ai pas trop aimé les animations 3D des démons en mode poisson avec des vases sur le dos.
Hein?
Ouais, non mais... non mais c'est un enfer à expliquer. Il y a 60 personnages. Tout
et
le monde a des caractères.
Malheureusement, je trouve que l'histoire n'avance pas énormément.
Oui, je pense qu'ils sont concentrés sur la 3D des monstres.
Je trouve que, voilà. Après, visuellement, c'est très très beau. Les combats avec Missouri et son sabre qu'elle arrive à faire tout. T'as l'impression que c'est un truc de GRS. C'est incroyable.
Ah, mais c'est le même principe qu'un truc de GRS. C'est l'espèce de. Vous voyez, un petit bâton et au bout il y a un très long ruban.
Mais c'est
son
un
sabre.
Bâton de GRS, c'est ce que je dis.
Genre là, une lame,
ça
a
un nom,
une lame qui.
Ouais, okay. Une lame molle.
Okay. Non, c'est ça, je me rappelle bien, je regardais une série quand j'étais jeune et il y avait de la GRS dedans.
Ouais.
C'était un animé, bien évidemment.
Bah oui.
Voilà, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Damien ?
À peu près la même chose. Moi, j'aime bien, je trouve que justement, la partie qui manquait d'histoire, c'est un peu celle du pilier de la brume où on nous raconte...
Ah, c'est peut-être le plus intéressant.
Oui, voilà, on nous raconte un peu plus son histoire et tout. Et même si ça ressemble beaucoup à des histoires qu'on connaît parce qu'ils ont tous un peu le même origin story. Quand
je me suis dit ça.
Leur famille est morte et du coup ils sont devenus très forts.
Je me suis dit, il n'y a pas un perso dans cette série qui vit une vie heureuse. Ah, Mitsui.
Ses parents ont l'air vivants. Ouais, bon.
Elle a subi du harcèlement parce qu'elle était trop forte.
Mais tu te bases sur quoi pour nous donner ces informations?
Mais on l'a vu, on a vu une partie de son passé. Non, mais ça va pas.
Damien
a loupé des épisodes. Mais si, on voit une partie de sa
passé. Moi, les trucs
de
un épisode par semaine, ça me.
Ah, mais moi, j'ai tout regardé en même temps. Moi, j'ai tout regardé à suivre.
Et du coup, j'étais assez d'accord avec toi. Et par contre, je trouve que l'animation est top. Moi, ça m'a pas trop gêné, les monstres 3D.
Oh, c'était que.
Il y en a de plus en plus maintenant. Je trouve qu'on s'habitue. Pas que chez eux, en plus. Et par contre, oui, ça manque d'histoire. Il manque un lion.
Le mec du pot qui fait des espèces de sculptures avec des cadavres, là, ça...
Ah oui, ça, c'était dégueu.
Ah, c'était dégueu. Bon, voilà.
Je vais pas vous cacher, vous l'avez pas très très bien vendu.
Mais en vrai, non, Demon Slayer, c'est une bonne série, mais c'est juste que...
C'est juste que ça se perd un peu, en plus. Moi, je trouve que chaque arc est différent.
Moi, ça me rend ouf. Il y a plein d'enfants de 10 ans à la boutique qui viennent et qui me disent... j'ai regardé tout Demon Slayer. Je leur dis quoi ?
Il y a du sang et tout.
Ah, c'est violent. Ça fait flipper. J'aimerais pas être ces enfants.
Mais moi non plus.
Du coup, moi, je vais vous parler de City on Fire. C'est la saison 1 que j'ai vue, qui comptait 8 épisodes de 51 minutes. C'est dispo depuis le 11 mai sur Apple TV+. Et ça parle de Samantha, qui est une étudiante de la...
NYU.
Ouais, c'est une université à New York.
Je pense que c'est New York University.
Ouais, mais j'arrivais pas vraiment à remettre les lettres dans le bon sens. Qui est. Quoi ?
Tu es.
Elle est morte. C'est le synopsis. C'est toi qui l'as mis en plus, c'est pas nous.
Mais vraiment, qui a écrit ça ? Ok, ça parle de Samantha, une étudiante à l'université de New York qui. Un soir, dans le Central Park, le 4 juillet 2003, se prend une balle. Il n'y a aucun témoin et très peu de preuves matérielles. Assistant au concert de l'un de ses amis dans son club préféré, Samantha s'échappe un instant pour retrouver quelqu'un.
Elle est morte, mais ça dit partout. Elle est morte, il y a un meurtre. Qu'est-ce que tu racontes ?
Mais ne reviendra jamais.
Bah oui.
Une enquête est ouverte pour résoudre l'énigme du meurtre, mais c'est pas du tout un meurtre, qui s'avère le point commun entre une série de mystérieux incendies, la scène de musique new-yorkaise et une riche famille de prometteurs immobiliers accablés par leurs nombreux secrets. Alors, elle n'est pas morte, personne n'est mort. Parce que les gens vont à l'hôpital et sont sous respirateur qu'ils sont morts.
Mais
ça s'appelle le coma.
Mais est-ce qu'elle passe toute la série dans le coma ?
Oui.
Elle se réveille jamais ?
Si. Mais ils voulaient peut-être pas spoiler en disant qu'elle allait se réveiller.
Mais là, ils insistent en plus. Ils parlent pas d'un accident, ils parlent d'un meurtre.
Alors, j'ai trouvé ce synopsis sur notre partenaire, Captain Watch.
Bonjour.
Au top.
On les embrasse, les amis du podcast.
Voilà. Vous pouvez retrouver le lien vers leur site sur notre blog. Sinon... j'ai lancé cette série parce que c'était par les créateurs de ZOA. Non. ZOS.
ZOS.
De l'appareil.
J'arrive plus. C'est ZOA. Hein ? Non, c'est pas la même chose.
Est-ce qu'il y a des gens.
Est-ce qu'il y a des gens qui dansent pour remonter le temps ?
Non.
Ah, c'est pas ZOA.
Mais non, c'est avec.
Newport Beach ?
Oui, merci.
Ah oui.
Il y a des gens qui dansent, mais pas pour remonter.
C'est Zio aussi. Et aussi. Oui, donc c'est une série. J'en peux plus. Je vais pas arriver.
Windows Stress.
Du coup, j'ai voulu regarder cette série parce qu'elle a été faite par les créateurs de Newport Beach et d'une autre série aussi. Et donc j'étais en mode, ça a l'air cool, en mode une nouvelle série Young Adult et c'est Apple TV+, ça peut être sympa. J'avais payé pour tout le mois, je me suis dit, il faut que j'en profite. Et étrange.
Ah.
Étrange. En fait, on suit. Là, le résumé nous parle principalement de Samantha, mais on suit principalement.
Non, ça ne se pas trop si.
Qui est morte.
C'est même pas l'héroïne.
Mais en fait, si, c'est le personnage principal, mais en vrai, nous, pendant qu'elle est dans le coma, on suit Charles.
Mais pourquoi on parle pas de Charles dans le résumé ?
Ça rien. Et en fait, on suit l'histoire de Charlie qui est beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire se replace du coup en 2003, très peu de temps après les attentats.
Ok.
et ah oui, du 11 septembre. Mmh. Et en fait, le papa de Charlie était dans les tours pendant qu'il y a eu l'attentat. Et il lui a laissé un message vocal en disant « Ouais, Charlie, il se passe quelque chose, je pense que je ne vais pas m'en sortir, tout ça. » Parce qu'en fait, les gens ont eu le temps d'appeler avant de décéder. Bah oui. C'est horrible. Et en fait, Charlie est un peu perdu. En fait, il essaie de se remettre de ça. Mmh. Il rencontre Sam, qui devient une de ses meilleures amies, qui, elle, est à la fac. Elle doit avoir peut-être un an ou deux de plus que lui, mais même pas, je ne suis pas sûre. Et en fait, ils se lient d'amitié et ils adorent aller voir des concerts. Et il s'avère qu'elle, elle est également amie avec un groupe. Et en fait, un groupe qui tourne un peu comme une secte et qui brûle des bâtiments pour faire redescendre le prix de l'immobilier. En fait, ils sont payés par des riches pour
c'est
faire
une secte,
ça.
Mais de gauche.
Et du coup, en fait, Charlie se retrouve un peu dans ce truc-là. Bah, ils sont payés par des promoteurs immobiliers. Ah, donc non, c'est pas... Merde. Et donc Charlie se retrouve un peu mêlée à ça et en fait se retrouve un peu dans le truc de faire des attentats, de poser des bombes ou d'être liée à ça alors que son père est décédé dans les tours. Donc qu'est-ce que ça peut lui apporter psychologiquement ? En même temps, il y a des grosses histoires de famille. Enfin, c'est vraiment super dense comme série. Après, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec Newport Beach. Hein.
Oui, ça,
on n'est pas du tout sur un truc léger.
Dans Newport Beach, ils brûlent des maisons, tu me diras.
Ouais, c'est peut-être le seul lien. Mais vraiment, là, on est sur un peu qu'est-ce que le 11 septembre a fait à la population new-yorkaise.
Du coup, le synopsis n'a aucun rapport avec
ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'il a laissé ? Non, aucun. Et c'est pour ça que le titre de la série est City on Fire, parce qu'en fait, il y a des bâtiments qui brûlent pour faire augmenter le prix de l'immobilier, pour que les promoteurs... Baisser le prix de l'immobilier pour que les promoteurs la rachètent à rien et qu'après, ils puissent faire construire des... En gros, c'est pour que les riches s'enrichissent, pour que les pauvres... Oui. Voilà. Et à côté de ça, une des solutions pour faire baisser ce prix, c'est de mettre le feu. Et il y a eu également, je ne sais pas si vous savez, mais à New York, en 2003, il y a eu un clash. Enfin, il n'y a plus d'électricité pendant longtemps.
Ah oui ? Non, je ne savais pas.
Et en fait, ça se passe également à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu genre, il y a eu les tours, il y a eu ce truc où il n'y a plus d'électricité. Enfin, c'est vraiment super bizarre comme série. Après, je ne sais pas s'il y aura une suite... Et puis, ils ont essayé de rattacher tous les personnages d'une façon un peu problématique, je ne sais pas trop. Sinon, j'ai regardé Single Drunk Female. La saison 2, qui comptait 10 épisodes de 21 minutes, c'est sorti en juin, mais je ne sais plus exactement quand. C'est dispo sur Disney+. Je vous avais déjà parlé de la saison 1, pour laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur. Pour rappel, Samantha Fink, 28 ans, est une éternelle fêtarde. À la suite d'un événement embarrassant en public, la jeune femme se rend compte qu'elle a peut-être un souci avec l'alcool et elle est contrainte de retourner chez sa mère autoritaire pour se désintoxiquer et éviter la case prison. Ça, c'était le résumé de la saison 1. Et j'avais hâte de regarder la suite qui a mis du temps à arriver, car oui, malheureusement, elle a été repoussée une ou deux fois sur Disney+, je ne sais pas trop pourquoi. Je l'ai regardée ultra vite, j'ai dû regarder ça en un ou deux jours peut-être. Mais j'ai trouvé que cette saison était un peu en dessous par rapport à la première. La première m'avait vraiment ultra marquée. Là, j'étais un peu plus déçue. Ça fait 2 ans que Sam est sobre et on continue à la suivre dans son parcours de sobriété, ce qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas quelque chose qui s'arrête ou qui est fini. Et là, la série essaie de parler peut-être un peu plus de son entourage, principalement de sa mère, qui n'accepte pas certaines phases de la guérison et qui l'empêche d'avancer. Et en fait, elle se rend compte, tout le monde, enfin sa mère, en fait, elle se rend compte que c'est elle le problème et que c'est plus Sam. Sam est plus sous le coup de l'alcool. Mmh. Et du coup, là, on se rend compte que c'est la mère de Sam qui est un peu toxique, qui n'arrive pas à se remettre du fait que sa fille a changé, que c'est plus la fille qu'elle avait qui était là il y a 2 ans. Et ouais, donc après c'est toujours aussi intéressant, mais peut-être c'est peut-être un peu plus sérieux, du coup il y aura peut-être un peu moins d'humour, et moi ça m'a peut-être un peu moins touchée, je sais pas comment expliquer.
Ok, c'était marrant la première saison ?
Vraiment, en fait il y avait c'était un peu du comique de situation, ou des trucs que Sam faisait alors qu'elle était sous le coup de l'alcool, ou des choses comme ça, et après elle avait pas mal de réparties aussi.
Parce que là, ce que tu décris, ça n'a pas l'air particulièrement marrant.
Non, c'est pas marrant, mais en fait, elle a des amis aussi qui, elles, vivent leur vie. En fait, on suit ça, mais on nous montre aussi que être alcoolique fait que tu as des problèmes dans ta vie, mais ne pas être alcoolique fait aussi que tu as des problèmes dans ta vie. Quoi. Donc, en gros, ils essaient de relativiser en disant, regarde, elle n'est pas alcoolique, mais elle a aussi des problèmes dans sa vie. Genre, elle a divorcé de son mari avec qui elle s'est mariée la veille, quoi, par exemple.
C'est souvent une... Ok. Damien, tu peux enchaîner si tu veux.
À volontiers.
Moi, j'ai regardé Danmachi, il y a la saison 4 sur Crunchyroll qui est arrivée en juillet 2022.
Tout est... que des 22 ?
Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il y a 22 épisodes de 22 minutes, c'est sorti le 22 juillet 2022. C'est fou. C'est sur Crunchyroll en ce moment, c'était ailleurs avant, la saison 4 est arrivée il n'y a pas si longtemps. Le résumé, c'est le jeune aventurier Belcranel qui travaille dur dans le donjon d'Horario pour s'améliorer, inconscient du fait qu'il y plaît aux femelles mortelles et immortelles. Voilà.
Ouais, non mais il y a un problème avec les meufs dans ce
Il y a un problème. Je vais pas en parler trop longtemps du coup, mais... Il y a toujours le même souci avec Danmachi, c'est les combats sont très très bien animés, vraiment l'animation elle est top. Le perso principal, il a un caractère un peu chelou, genre pas de héros, c'est pas un anti-héros non plus, mais c'est genre un peu, oh bah les choses se passent et je fais avec. Mais en soi, ça fonctionne assez bien, parce qu'il est quand même plutôt développé et tout. Il y a plein de persos féminins qui ont des histoires intéressantes, qui sont détachés du perso principal et ça parle pas que du perso principal. Mais il y a vraiment des meufs en culotte soutif tout le temps.
Dans des donjons ?
Dans des donjons. Et des monstres en culotte soutif. Enfin, il y a n'importe quel prétexte pour mettre des meufs à poil, ils le font. Enfin, à poil, j'exagère, mais...
C'est bizarre. Mais après, c'est marqué dans le titre.
Oui, oui, le titre, c'est « Est-ce que c'est pas bien de draguer des meufs dans des donjons ?»
On peut draguer des meufs habillées.
Oui. Mais là, en l'occurrence, dans elles sont toutes très attirées par le perso principal.
Bah, en vrai, il est mime, ça, mais c'est un enfant... Vraiment, oh là là. Ça pose un autre problème.
Mais les
problème.
Meufs sont souvent des enfants dans ce...
Les meufs aussi, mais le mec, c'est un gamin. Enfin, vraiment, c'est
il...
pas
un... Saison 4, il est un peu plus vieux.
Un adulte. Ah bon ouais. Ah ben, il faut vraiment que je reprenne, alors.
Bah, bref, du coup, il y a aussi... En vrai, ils le font aussi avec les mecs qui finissent souvent à poil quand il y a des combats et tout. Mais... C'est vrai. Mais vraiment, il y a un petit côté... ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, ni à quoi que ce soit. Arrêtez. Voilà, c'est mon avis. Mais par contre, c'est bien en vrai. Enfin, malheureusement.
Malheureusement.
Tu es condamné à continuer de regarder.
Bah, ouais. Et sinon, j'ai aussi regardé, toujours en animé, Vinland Saga, qui a vu une saison 2 sortir en juin 2022 aussi. Cette fois-ci, c'est 24 épisodes de 24 minutes. C'est sorti sur... Juin 2022, je pense que j'ai tort, parce que le dernier épisode était la semaine dernière, mais bon.
Ah oui.
Ça sortait sur Crunchyroll et sur Netflix, c'était un épisode par semaine. Et là, c'est un très très long résumé. Alors, un nouveau millénaire commence dans la partie sud de la péninsule du Jutland au Danemark. Après la mort de son ennemi de toujours, Askeladd, Thorfinn a perdu son but dans la vie. Il a été acheté par le propriétaire terrien Ketil comme esclave et s'est engagé dans des travaux de remise en état des terres de sa ferme.
Ben oui.
Oui. Thorfinn y rencontre un jeune homme, Einar, qui était également un esclave comme lui. La rencontre d'Einar amène Thorfinn à faire face au péché qu'il a commis et commence à trouver un sens à sa vie. D'autre part, Canute, qui est devenu le roi d'Angleterre, a tenté d'étendre son territoire pour établir la terre promise. Et la suite du résumé n'a pas de sens. Voilà. C'est...
On rappelle que Damien trouvait qu'il y avait trop de personnages en Demon Slayer.
Ouais, mais là, on est vraiment sur un level sup. Et moi, c'est pour ça que je regarde pas déjà, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui meurent tout le temps.
Et bah, pas du tout dans cette deuxième saison, bizarrement.
Parce que tout le monde est mort dans la première.
Bah, vraiment, c'est peut-être pour ça. Ils ont une enfin, le héros a une vraie évolution de perso un peu cool. Dans la première, c'est vraiment un gamin qui veut venger son père et... Bah, en vrai, c'est pas un shonen, quoi. C'est un seinen, donc il veut vraiment venger son père, et c'est crassou, mais ça fonctionne bien dans l'histoire, et les persos sont chouettes. Enfin, ils sont tous très... Leurs actions sont justifiées, quoi, on va dire. Il y a toujours des raisons à ce qu'ils font. Et là, dans la saison 2, ils se rendent compte que, bah, en fait, c'était un peu un connard, parce que, bah, il a tué plein de gens, ce qui est pas très sympa. Et du coup, il essaie de se racheter. Et donc, on passe dans un truc où il tuait plein de gens dans la saison 1. Là, il va à la pêche, il coupe du blé, il ratisse des terrains, il coupe du bois, il s'occupe des personnes âgées. C'est assez...
C'est très décevant si t'avais aimé dans la...
Vraiment, les trois quarts des commentaires sur Crunchyroll, c'est « Quand est-ce qu'il y a des combats ?»
Ah oui, d'accord.
C'est assez marrant.
On veut de la bagarre.
Mais en vrai, du coup, la saison est vraiment cool. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de combats. Et il y a plein de... Enfin non. Il y a Einar qui est un nouveau perso qui est un peu la face inverse de Thorfinn. Genre, il est un peu grande gueule et lui sait pas se battre, alors que l'autre est un taiseux qui passe son temps à vouloir se taper, ou en tout cas voulait. Et on voit plein de paysages magnifiques, parce que ça se balade en Angleterre, au Danemark, on va en Islande, enfin c'est vraiment très beau.
On reste sur Crunchyroll.
Ok, oui. Alors moi je vais vous parler de mon histoire d'amour avec Yamada, level 999. C'est le titre, ce titre incroyable. C'est la saison 1 qui comptait 13 épisodes d'environ 24 minutes. C'est diffusé depuis le 2 avril 2023 sur Crunchyroll et c'était un épisode par semaine. Ça nous parle de Akane qui, après que son petit ami l'ait trompé avec une fille qu'il a rencontrée dans un jeu en ligne, Akane apprend à ses dépens que les petits amis gamers peuvent être tout aussi mauvais que les autres. Alors qu'elle évacue sa colère en réduisant en bouillie des monstres sur son jeu, elle rencontre par hasard Akito Yamada, un compagnon de guilde portant une coupe afro et un masque de no. Alors, vous visualisez pas, mais c'est moche.
Moi, je l'ai vu.
Yamada est peu sociable et brusque, pas vraiment le genre de personne à faire pâlir Akane. Cependant, alors qu'il est redoutable en ligne, Yamada est inexpérimenté dans les affaires de cœur. Et contre toute attente, Akane se retrouve émue par lui. Se faisant de nouveaux amis en cours de route, Akane pourra-t-elle faire vaciller le cœur de Yamada ?
Ce synopsis aussi, il n'a pas de sens à un moment donné.
Pourquoi ?
Bah, cependant, alors qu'il est redoutable en ligne, Yamada est inexpérimenté dans les affaires de cœur. Ah si, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête.
En fait, c'est un peu... ils ont fait un résumé un peu chelou, mais en gros, elle se fait larguer par son mec qui la trompe avec une fille qu'il rencontre dans le jeu où il avait demandé à Akane de jouer avec lui.
Je crois que j'ai vu deux épisodes. C'était drôle.
Ouais, c'est trop drôle.
C'était drôle.
C'est incroyable. Et du coup, bah, elle joue à ce jeu, elle rencontre Yamada dans le jeu. Et en fait, un jour, ils vont à une espèce d'événement sur le jeu. Et en fait, elle rencontre Yamada en vrai. Oh. Et oh mon Dieu, c'est un incroyable beau gosse de ouf. Et il bien évidemment, elle voit son ex aussi. Et là, elle commence à baratiner en mode « Ah, c'est mon nouveau copain !» Mais c'est pas vrai. Et voilà. C'est à partir de là que commence leur histoire, sauf que Yamada est un très très bon jeu.
C'est genre le squeeze.
Il est joueur professionnel même, parce qu'il est colissé, mais il est joueur professionnel. Mais il fait des jeux en ligne à côté.
Il fait des FPS.
Ouais, c'est ça. Et pour passer le temps tranquille, il joue à des petits MMORPG comme...
Pour se détendre.
Ouais, c'est ça, pour se détendre. C'est
hyper détendant.
Et bah vraiment, ma découverte, Shoujo, en anime de l'année, vraiment, c'est la première fois. Ça fait super longtemps que j'avais pas regardé un shoujo et que je suis pas tombée amoureuse en me disant « Oh mais il est trop bien shoujo !» Et ben là, c'est le cas. Chaque semaine, j'avais trop hâte de regarder mon petit épisode. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette histoire et visuellement, l'anime est plutôt beau. Akane et Yamada sont trop mignons. J'espère que le manga sortira un jour parmi, parce qu'il est pas sorti en France et qu'il est giga bien et que je suis giga fan. Et vraiment, le manga, oh mon Dieu, il est trop bien. Et en fait, je le classe en shoujo, mais c'est plus un josei parce qu'en fait, notre héroïne Akane, elle est en première année de fac, je crois. Yamada, il est en dernière année de lycée. Je crois qu'ils ont un an ou peut-être deux ans d'écart, donc en vrai, c'est pas cringe. Mais c'est quand même des romances un peu plus adultes, c'est dans le sens où ce sont des adultes, quoi. Et c'est cool. Enfin, c'est vraiment dans la lignée de Sign of Affection ou d'autres mangas comme ça que j'adore. Il n'y a pas beaucoup de mangas avec des héros et des héroïnes qui sont à la fac ou qui sont plus adultes. Et moi, je trouve ça trop, trop cool. Et j'ai envie que ça sorte en manga.
Ça parle de jeux vidéo.
Et en plus, ça m'a... Par contre, à chaque fois que je regarde un épisode, j'ai envie de trouver un MMORPG trop cool pour jouer. Genre, moi, je les voyais aller sur Forêt, je fais « Mais moi aussi, je veux jouer !» Mais moi aussi, je veux
Alors
jouer !»
Alors pourtant, les scènes en jeu sont pas si bien faites, je trouve.
Quoi ?
Bah... C'est Dofus.
Ouais, mais moi je voulais. Non, mais moi je voulais juste aller jouer avec des gens dans un joli MMORPG, avoir une guilde et tout, tu vois. Oui. J'étais, oh, mais moi aussi je veux faire ça. Ça a l'air trop bien. Mais voilà. Bah, là c'est fini. Et le final, oh mon Dieu.
Mon Dieu.
Je continue avec mes premières fois. La saison 4 qui comptait 10 épisodes de 29 minutes, c'est sorti là. C'est sorti là, c'est je peux rien vous dire, en juin. Dispo sur Netflix, et c'est la fin c'est la fin. Alors, pour rappel, on suivait Davy qui était au lycée et on se demandait toujours avec qui elle allait finir. Et là, c'était une grande révélation. Mais avant de savoir avec qui elle va finir, le plus important, c'est plutôt dans quelle fac elle va aller. Et c'est là-dessus que se concentre cette saison. Et bah, c'est plutôt bien. J'ai bien aimé ce final. Il m'a convaincue. Je le trouvais sympa. Après, vraiment, la saison 1, j'avais vraiment adoré. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette série. Je trouve qu'elle était marrante, qu'elle abordait des thèmes incroyables. La saison 2 m'avait un peu déçue. La 3, moyen. En fait, peut-être que ça aurait été un one-shot, ça aurait été plus cool, tu vois.
Donc, oui, peut-être. 4 saisons, ça me paraît long.
Bah, c'est un peu long pour une série de ce type-là, en fait. Mais regardez mes premières fois, si vous ne l'avez pas fait, c'est un bon divertissement. Et je vais terminer ce récapito série avec Les Gouttes de Dieu. Donc, j'ai regardé la saison 1 qui comptait 8 épisodes de 53 minutes. Ça a été diffusé le 21 avril 2023 sur Netflix. C'était une des séries qui avait été également diffusée lors de Série Mania.
Une série phare.
Oui, grosse série internationale en fait. Qui avait été diffusée lors de Série Mania. On ne l'avait pas vue, mais moi j'avais très envie de la regarder. C'était sur Apple TV+. Et c'était une nouveauté, il y avait un épisode par semaine. Bon, après, ça fait un petit moment que c'est fini quand même. Ça nous parle... Quel est le résumé ? Allons-y. Tandis que le monde du vin pleure Alexandre Léger, sa fille Camille, avec qui il n'était plus en contact, apprend qu'elle hérite de son extraordinaire collection de vins. Mais pour pouvoir revendiquer son héritage, Camille doit battre Issé, le protégé d'Alexandre, lors d'une épreuve pour leur sens.
Leur sens d'odorat.
Oui, c'est très bizarre, parce que là, je ne comprenais pas.
C'est pas moi qui ai écrit le résumé.
Moi non plus. Alors, c'est l'adaptation en série du manga du même nom, avec en scénariste Tadashi Haji et Semaru Amagi, et au dessin Shu Okimoto. C'est un manga qui compte 44 tomes, qui est terminé et disponible chez Glénat en France. Il existe également une suite qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, Mariage, qui compte 24 tomes en France et 26 tomes en Japon et qui, elle, est toujours en cours. Ça fait beaucoup de tomes, tout ça. Alors, ce manga, c'est un peu un classique, mais évidemment, je ne l'avais pas lu. Parce que bon, faut pas trop faire comme tout le monde, quoi. Non, j'en sais rien. Non, je vous avoue que 44 tomes, le dessin est un peu vieillissant. Moi, ça parlait de vin. Vraiment pas ma cam, on va pas se mentir, mais par contre je sais le trouver dans le magasin si vous le cherchez, vous inquiétez pas.
T'as vraiment fait comme on fait au lycée quand au lieu de lire un livre on regarde le film. Là t'as regardé la série pour pouvoir en parler.
Non, parce qu'en fait voilà, je vais en parler tout de suite. La série part et le film part du même spot, mais en fait cette série c'est une incroyable adaptation. Là où le livre s'étale sur 44 tomes, la série dure 8 épisodes, elle est terminée, elle est intégralement terminée. En fait, elle ne fait pas un raccourci, mais elle prend le meilleur pour faire quelque chose de plus synthétique et de beaucoup plus intéressant. Là où dans le manga, en fait, c'est deux héritiers qui se battent, qui font plein de duels pour savoir qui va avoir l'héritage. C'est à peu près ça, le spot de départ. Là, on est sur quelque chose de plus moderne. Il n'y a que 3 épreuves. Et au final, le vin et tout ce côté gastronomie est un peu mis à l'écart. Il existe, bien évidemment. Il est là, il est au centre de l'histoire, mais ce qui est vraiment important, c'est l'histoire de famille des Légers, et ça a été un peu revisité déjà dans le manga de base, c'est que des hommes, alors que là, l'héritière Camille est une fille, donc ils ont essayé de mettre un peu de femme là-dedans, ce qui n'est pas plus mal, et vraiment c'est super intéressant, c'est vraiment ça le principal truc, c'est l'histoire de famille, comment leur père, comment son père à Camille était toxique, qui est Issé, quelle est son histoire à lui, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se battre, qui va gagner. Et au final, ce qui est important, c'est pas vraiment qui gagne et c'est pas vraiment le vin qu'ils boivent, l'argent qu'ils dépensent, le fait qu'ils soient super riches, le fait qu'ils habitent Tokyo, qu'ils voyagent en Italie, qu'ils voyagent partout là. Le plus important, c'est vraiment comment un père toxique, comment en fait tu peux prendre quelque chose de méga toxique et en sortir quelque chose de positif. Et je trouve que c'était ça le spot et c'était ça qui marchait vraiment. Après, visuellement, c'est super moderne aussi. Ils ont fait plein de trucs autour du vin pour un peu nous montrer les sensations, comment est-ce qu'on goûterait un vin et tout. Moi, j'y connais absolument rien, mais je trouvais ça plutôt cool. Et donc, moi, ça m'a plu. En plus, on est un panel d'acteurs international pour cette série. Il faut savoir que l'actrice principale est française, l'acteur principal est japonais. Et à côté de ça, on a d'autres acteurs autour qui viennent là. Et c'est des acteurs, je crois qu'on a un Italien, on a une autre japonaise, on a un anglais. Enfin, en fait, il y a beaucoup de monde. Ils parlent tous anglais ou japonais dans la série, ou français pour Camille, évidemment, parce que là, on est quand même sur le vin, donc c'est qu'un truc français, ils voyagent aussi en France. Et donc, vraiment, c'est une super bonne série. Et ça marche ultra bien. Moi, je vous conseillerais d'ailleurs de regarder la série plutôt que lire les 44 tomes.
Mais non. Épisode versus 44 tomes, oui.
Mais non, mais il faut quand même dire que c'est une série qui compte 44 tomes finis plus 26 tomes en cours. Enfin, arrêtez-vous au bout d'un moment. Est-ce que je suis pas sûre que ça soit ultra intéressant? À part si vous aimez incroyablement beaucoup le vin. Peut-être que là, ça peut vous plaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de famille et j'étais très contente que ça, de la longévité de cette série. Et voilà.
Ok. On a terminé les séries. On va passer au film. Je vais commencer à vous parler des films avec un film, du coup, qui s'appelle... C'est là que c'est bien fait. Qui s'appelle R, qui est sorti en avril 2023 sur Prime Video, qui dure 1h52. C'est réalisé par Ben Affleck. C'est avec Matt Damon, Jason Bateman et Ben Affleck. Le résumé, c'est que... Ce résumé est nul encore.
En vrai, c'est un peu le thème du podcast, globalement.
Les résumés
nuls. Pas de celui-là, c'est...
Oui.
On tombe souvent.
R dévoile le partenariat qui a changé la donne entre Michael Jordan, alors inconnu, et le tout jeune département basket de Nike, qui a révolutionné le monde du sport et de la culture avec la marque Air Jordan. Il faut savoir que j'ai un faible pour les biopics qui vantent l'American Dream, parce que même si souvent les valeurs sont un peu dégueulasses, c'est rigolo. Ce film ne déroge pas à la règle, c'est full valeur, quand on veut, on peut. Au-delà de ça, le film n'est pas dingo, parce que c'est un biopic qui raconte un truc dont on se fiche pas mal.
Ah.
Comment Nike a inventé les Air Jordan.
Ah.
Qui ça intéresse?
Pas moi.
Voilà. Oui, c'est ça le truc. On pourrait même résumer le film en comment des Blancs se sont appropriés une culture afro-américaine pour en faire de la thune. Parce que c'est ça, on parle quand même de basket et on voit que des gens blancs dans ce film. La mise en scène et le scénario sont assez peu inspirés.
Mais attends, il n'y a pas Michael Jordan dans ce film?
Genre, je viens après, parce que Michael Jordan, c'est un vrai délire. Il y a même des lacunes assez sévères dans la mise en scène et le scénario. Surtout quand on est censé comprendre des choses importantes. Il y a toute une scène où Matt Damon, le personnage principal, voit Michael Jordan jouer pour la première fois. Le voit sur une VHS, il voit un truc. Michael Jordan fait un move de basket, il fait une passe, il rembobine, il re-regarde, il rembobine, il re-regarde, gros plan sur ses yeux, il rembobine, il re-regarde, et nous, on voit juste Michael Jordan faire une passe. Et on comprend pas. Alors qu'on voit bien que le film essaye de nous dire c'est fou ce qui se passe. Et nous, on fait, oui, je ne comprends pas. Et en fait, le film explique, genre, deux scènes après, que c'était une dinguerie.
Pourquoi?
Mais après, tu joues pas au basket.
Peut-être que les joueurs et joueuses de basket le verront direct, mais c'est juste qu'en fait, je sais plus, il s'est démarqué alors qu'il n'y avait aucune raison de lui faire la passe, mais il la veut la balle parce qu'il sait qu'il va.
Ah, c'est juste ça en plus.
C'est juste parce qu'en gros, il voit l'audace de Michael Jordan, donc il faut tout miser dessus. Enfin. Ouais. Ça s'est peut-être passé comme ça grâce à cette VHS, mais le film le vend pas bien. Et Michael Jordan, justement, Ben Affleck a fait le choix de ne jamais le montrer, même quand il est dans la pièce. Et l'effet ne marche pas du tout, jamais. Par exemple, on le voit que de dos.
Pourquoi ?
On ne voit le gars que de dos.
Mais c'est vraiment lui ?
Non, c'est un jeune acteur afro-américain qui l'incarne, mais on ne le voit jamais. Et je pense que le truc, c'est genre, il n'y a qu'un seul Michael Jordan, ou Michael Jordan est trop grand pour être interprété au cinéma. Mais c'est complètement con parce que ça ne marche pas. On voit bien que la caméra, elle essaye tout le temps de... Ah, il ne faut pas qu'on le filme. Oui, mais du coup, c'est moche. Oui, mais il ne faut pas qu'on le filme. Comme dans tous les biopics de ce style, il y a la grande tirade qui fait basculer le climax du film. mais elle est pas folle parce que on s'en c'est fout un peu. C'est pour vendre des baskets.
C'est bien de vendre des baskets.
Il manque peut-être un enjeu.
Ça manque clairement d'enjeu parce qu'en plus on sait qu'à la fin, on voit les gens dans la rue avec des Air Jordan. Donc on sait très bien que voilà. C'est juste rigolo. On apprend des choses, par exemple que Converse et Adidas étaient à l'époque les deux marques qui cartonnaient en NBA et que Nike était tout pourri. Alors qu'aujourd'hui Nike, bon bah c'est la plus grande marque on va dire de sport du monde. Donc c'est voilà, ça, ce côté-là, c'est un peu ce que je cherchais et que j'ai eu trop peu. Voilà, c'était pas fou.
Il y a un truc avec Jeff Goldblum qui va essayer des sneakers, c'est assez cool. C'est
un énorme lien,
mais c'était bien.
Okay.
C'est le truc Le Monde Selon Jeff Goldblum.
Ah oui, mais ça a déjà disparu ou ça va disparaître de Disney Plus.
Ah bah désolé.
Je vais parler d'un film que je pense
peu connu.
À peu près 7 milliards d'humains connaissent. C'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau.
Mais non, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est ?
C'est la suite des Anneaux de Pouvoir.
Oh.
Prime Video, sans prévenir, a fait la suite.
Ah bah oui.
Quoi?
Pas chronologiquement parlant.
Ah mais c'est vrai, tu as raison.
C'était sorti en 2001, ça dure 2h59 et vraiment c'est hyper long.
Mais t'as regardé la version longue?
Bah non, c'est la version normale.
Mais elle dure combien de temps, la version longue?
Je pense qu'elle dure
8 heures. Il n'y a pas de version longue.
Si, il y en a une en plus, mais elles ne sont pas sur Prime Video. C'est réalisé par Peter Jackson et c'est avec que des mecs.
Ça, c'est, je l'avais jamais Peter
vraiment
Jackson.
Marqué. Oui, il est dedans, mais il y a absolument que et des mecs.
Galadriel, quand même, du coup. Attends, pas dans la communauté.
Il y a Arwen.
Oui.
Et c'est la seule meuf du film.
Ouais.
Non, il y a Galadriel aussi.
Mais c'est dans la communauté, Galadriel ?
Ou elle est que dans la communauté Galadriel.
Ah, bah oui, c'est vrai, c'est juste avant.
Résumé, bah, tout le monde le connaît, à part Damien, puisque je sais plus trop quand est-ce qu'on voit qui.
C'est parce que, pardon, mais du coup, moi, j'ai lu les livres. Et...
oh, pardon.
Non, mais en plus, ça marche pas.
Bon, après, est-ce qu'il y a encore besoin d'expliquer pourquoi la communauté de l'anneau est incroyable? Je ne pense pas. Et je trouverai un créneau pour me regarder la suite.
La version courte, elle dure 178 minutes.
Bah, ça fait vraiment 2h50.
Que tu as vu, ouais. Et la version longue fait 2h28. 228 minutes, pardon.
La version longue est plus courte. Let's go.
Là, là, c'est bizarre.
228 minutes, j'ai confondu. Ce qui rajoute un petit paquet de minutes.
Damien, tu peux enchaîner.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, bah moi, je peux vous parler de Seo Bok. Alors, désolé s'il y a des prénoms que je prononce mal, ou des noms, d'ailleurs. C'est sorti en 2021, ça dure 1h55, c'est dispo sur Netflix. Je pense que c'est arrivé au catalogue Netflix assez récemment, parce que je l'ai vu popper dans les petites vignettes de trucs récents. Bon, oui. Donc, c'est réalisé par Young Joo Lee, et dedans, il y a Bogum Park, Gongyo, Yongnam Jang. Le résumé, c'est le premier clone humain détenteur de la vie éternelle chez Obok, est la cible de plusieurs organisations cherchant soit à l'enlever, soit à le détruire, acceptant la périlleuse mission de le protéger. Ki-Heon, un ancien agent secret atteint d'un mal incurable, se laisse progressivement gagner par l'humanité de Seo Bok. Et du coup, c'est un mix entre pas mal de trucs, en termes d'histoire, mais aussi d'ambiance. C'est vraiment un truc bizarre entre Akira et La Vengeance dans la peau, mais en Corée.
Ok, dit comme ça, c'est un cocktail original.
Bah, vraiment, du coup, c'est assez ça. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. La réalisation, elle est cool. Il y a un côté un peu, souvent, les films de vengeance où on est tout le temps dans le noir et il y a de la lumière bleue partout. Et ça met une ambiance un peu genre... je cherchais...
La mémoire dans la peau.
Oui, en fait.
Jason Bourne et tout.
Oui, voilà. Du coup, d'où le fait que ça soit un mélange avec ça. Et des super pouvoirs.
Ah oui.
Ouais, donc Akira. Et puis voilà, le scénario, il est cool parce qu'en fait, ça dure 2 heures et vraiment, on s'ennuie pas trop. Il y a beaucoup d'action. En vrai, se laisse progressivement gagner. C'est vrai. Mais c'est quand même surtout des combats, y compris avec des super pouvoirs. Même s'il y a quand même une histoire qui est sympa. Et j'ai bien aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai bien aimé.
Cool.
Et le dernier film, c'est Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse. C'est sorti en 2018, ça fait 1h57 et c'est dispo sur Disney+, mais parfois c'était sur Netflix, ça dépend.
Les films Spider-Man déménagent à peu près tous les deux mois.
C'est un turnover intéressant à suivre.
C'est genre parce que c'est Sony,
une patate chaude.
Un peu...
Oui, c'est Sony qui doit revendre les droits tout le temps.
C'est un film réalisé par Bob...
Persichetti.
Merci. Peter Ramsey et Rodney Rodman, avec Stefan Bach, Camélia Jordana et Valentin Merlet. Mais ça, c'est pour les voix en français.
Oui.
Ça parle de Miles Morales, un adolescent de Brooklyn qui s'efforce de s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs, les mêmes que Spider-Man. Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. Son invention va provoquer l'arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles.
Je commence. J'avais grandement besoin de me rafraîchir la mémoire avant d'aller voir la suite au cinéma, parce que je ne l'avais pas revu depuis le cinéma, justement. Toujours est-il que le film est toujours aussi efficace, et même si l'effet de surprise n'est plus là, sa richesse, surtout visuelle, est assez incroyable. La place de la musique au cœur aussi participe à cette créativité folle. Et pour le coup, l'animation vieillit vraiment très bien. Il y a d'autres films comme Les Mitchell contre les machines ou Le Chapoté 2 qui ont modernisé ce style visuel, mais ça reste très agréable. C'est ce film qu'aurait dû être le No Way Home de Marvel Studios. C'est un film qui fonce à 200% dans ce concept délirant du multivers. Du côté des points faibles, je trouve que le scénario va un peu trop vite, tout le temps. La morsure de l'araignée est expédiée, la mort de l'oncle Aaron est expédiée, l'apprentissage des pouvoirs est expédié.
Oh, ça va. Hein.
Même le...
Ouais, mais en vrai, y a que... pourtant ça dure 2 heures.
Ça dure pas.
Bah, c'est très dense, mais en même temps, tout va très vite. Bah non, justement, c'est logique. Et même le traitement final de Miles m'est apparu un peu trop rapide, parce que c'est juste grâce au pouvoir de la volonté...
Et de son papa.
Et de son papa... il devient un Spider-Man accompli. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait très gimmick de film pour enfants où du coup tu t'attardes pas trop sur... Tu passes vite à des certaines choses. Mmh. Donc peut-être que ce film-là, même s'il est hyper mature et qu'il touche aussi un public adulte, était encore peut-être un peu dans le délire. C'est un film d'animation, donc il faut aussi qu'on touche les enfants.
Ouais, surtout que la chronologie, elle est ultra linéaire et tout. Il n'y a pas de...
Oui. Donc, je me lasse un petit peu de ces écritures linéaires, justement. Et, bon, évidemment, c'est un excellent film.
Oui, moi, j'ai trouvé bien aussi. Hein. Je ne me rappelais plus de trucs. Il s'est pas... Je le regarde et je fais « Ah ouais, tiens, je ne me rappelle pas que ça s'était passé comme ça ou dans ce sens-là. » C'était très bizarre. Je crois qu'en fait, je faisais un gros mix entre tous les Spider-Man que j'avais vus.
Et ça commence à mélanger beaucoup
avec des films.
Y a beaucoup trop de Spider-Man. Écoute, il y en a eu un autre avec des univers...
Parallèle.
Du coup, j'étais un peu perdue, mais je me suis rappelée de ce film et il est incroyable. Et visuellement, il est trop beau. Et en plus, j'aime bien l'histoire. J'aime bien la Gwen de.
Gwen Stacy.
J'aime bien
Spider-Gwen.
Spider-Gwen. Et les autres Spider aussi sont cool. Et j'adore le costume de Miles. J'adore la musique. Je crois que c'est un des énormes points fort de ce film. La musique est toujours incroyable. Et j'ai hâte d'aller voir la suite.
On y va ce week-end ?
Yeah !
Allez. Mais Damien a peut-être des choses à dire sur le film.
Ah ouais, oui, non, Damien. J'ai rien de plus à dire. La musique, c'était... je l'ai en playlist depuis 2018, je crois, et je la mets vraiment très très régulièrement en mode... en plus, c'est assez rare que je le fasse, mais en mode l'album entier de toutes les musiques. Elles sont toutes trop bien.
Ok, est-ce que ça vous dit qu'on passe aux recommandations et aux nouveautés du mois de juillet ?
Volontiers !
Vous voulez connaître les recommandations et les nouveautés de juillet ?
Ah oui, alors.
C'est maintenant.
On a remplacé Mathilde par une IA.
Encore.
Alors, ça continue en juillet. Secret Invasion sur Disney+, 2 épisodes sortis le 6 jusqu'au...
Pas du tout.
Deux épisodes sortis sur 6. Et ça sera jusqu'au 26 juillet 2023. Alors, Damien a regardé le premier.
Ouais.
Voilà.
pas plus d'informations.
Moi, je sais.
Je suis un peu ennuyé. Mais bon, ouais,
J'ai l'impression que c'est ce qui ressort pour l'instant.
Ouais. Sinon, il y a Hell's Paradise sur Crunchyroll, saison 1, tous les vendredis. C'est toujours pas terminé, ça ?
Le mépris.
Mais non, j'ai regardé les deux.
Je pense pas que ce soit terminé.
J'ai regardé le premier, je croyais que c'était fini.
Après, tu t'es dit, ah, c'est trop violent.
Bah, non, le 1, ça va. Après, j'ai pas été quand ils ont été sur l'île avec tous les autres trucs.
Ouais.
Ouais, voilà. Et sinon, c'est nouveau, ça continue et c'est trop bien.
Ça continue pas, du coup.
Mais si, ça continue parce que ça peut être des saisons 2. Comme le samedi 1er juillet où il y a la saison 2 de Oremiya sur Crunchyroll qui débute, qui comptera 12 épisodes en tout de 24 minutes. Il y aura un épisode par semaine et c'est en simulcast.
Ça veut dire quoi en simulcast ?
Ça veut dire que ça dispo 24 heures après sa diffusion au Japon.
Moi, je pensais que c'était Crunchyroll qui avait inventé le truc.
Un J+1 ou...
Bah, ils ont toujours appelé ça un simulcast.
Mais qui ? Non, parce que OCS a toujours appelé ça un J+1.
Bah, je sais pas. Peut-être que c'est
moi, crèche. Je me disais, le simulcast, c'est leur manière de dire regardez, en février, vous pourrez regarder tel truc. Et du coup, ça stimule le fait de regarder. Et à la fois, ça n'avait pas de sens. Parce
non,
que
c'est
un programme.
Similaire. Similaire. Genre, cast pour diffusion. Enfin, une diffusion similaire.
Ouais, ouais,
une
non,
diffusion
non, mais,
tout de suite. Ouais,
non,
c'est...
mais moi, j'étais plus à, en même temps qu'au Japon. Vous pouvez le regarder.
Ok. Bah, enfin, c'est ça. Ouais. Mercredi 5 juillet. Alors là, il y aura My Happy Marriage saison 1 sur Netflix et on est également sur une diffusion simulcast avec un épisode par semaine. Et je veux pas vous dire, mais c'est la première fois sur Netflix qu'ils font ça pour des animés. C'est
bah, pour Vinland, ils l'ont fait.
Oui.
Ah bah non.
C'est la deuxième fois. Mais là, c'est un shoujo. Donc c'est tout est nouveau. Tout. Par contre, My Happy Marriage, c'est l'histoire d'une jeune fille maltraitée par sa famille en mode Cendrillon. Allez. Ah. Et finalement,
bah, le nom est pas du
ils
tout
veulent clair, la fiancer à un méchant monsieur qui est en final un très gentil monsieur et qui
donc,
est un général. Et il y a aussi des pouvoirs surnaturels dedans. Enfin, regardez, c'est trop bien. C'est de la romance et en plus, il y a des pouvoirs. C'est trop mimes. Ils portent tous des kimonos. Le dessin, c'est trop beau.
Ça se passe dans le passé ?
Non, ça se passe dans un monde inventé.
Ah oui, d'accord.
T'as des pouvoirs, toi, dans le passé ?
Non, mais des kimonos, oui. J'avais oublié la partie
pouvoir. C'est dispo le mercredi 5 juillet. Il y aura également Wham.
Toi ?
Sur Netflix, c'est un documentaire sur George Michael et Andriy Rijerle. J'arrive pas à le dire. Un documentaire de 1h32.
Tout le monde s'en fiche de lui, en vrai.
Et désolé, mais moi, j'ai envie de voir ce documentaire. J'aime bien Wham.
Oui, je pense que ce sera rigolo.
Sinon, il y aura aussi Kizazi Moto Génération Feu sur Disney+, 10 épisodes de 10 minutes. C'est une série d'anthologie inspirée des multiples cultures africaines, créée et réalisée par des artistes africains et africaines.
Par contre, Génération Feu, c'est un peu marrant comme...
Génération Feu, ouais, je m'y attendais
c'est,
pas.
Et c'est même pas un sous-titrage VF pourri. Je crois que c'est vraiment...
Fire Generation.
Ouais, c'est vraiment traduit pareil en VO. C'est très bizarre.
Étrange.
Et c'est des courts-métrages, du coup. Série d'anthologie, ça veut dire ça, pour les personnes qui ne sauraient pas. C'est
un peu comme ce qu'ils ont fait avec les Star Wars.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Qui a une saison 2, d'ailleurs.
Oui.
Vision ?
Oui, Vision, oui, c'est ça.
Merci. Sinon, le jeudi 6 juillet, il y aura Cash sur Netflix, un film de 1h35, une comédie française sur le trafic de parfums à Chartres.
Oh bah.
Alors là, j'ai vu la bande-annonce. Je vous dis, c'est du haut level.
Une comédie sur le trafic de moules à Saint-Brieuc. Non, mais c'est beaucoup trop
moi,
précis.
Moi, je l'ai vu. J'ai vu la bande-annonce.
Je sais pas
quoi. Je me suis dit, ça peut être marrant ou ça peut être une vraie cata.
Moi, je sais pas quoi en penser.
Bah, pour l'instant, avec la bande-annonce, je pense sur vrai cata.
Moi, j'aime bien que ça soit très très précis. Ça donne envie de faire des tonnes de versions différentes.
Mais déjà, il y a la blague de on va dans une région nulle en France et cette blague, blague me saoule. J'en ai marre.
Après, sinon, le même jour, il y a Jujutsu Kaisen saison 2 qui reprend sur Crunchyroll. Il y aura 24 épisodes de 24 minutes. Non, mais en fait, ça va durer ultra longtemps, surtout qu'ils vont faire des pauses, je suis sûre.
Bah.
Ça fera un épisode par semaine et c'est également en simulcast.
Ça fait presque 6 mois, hein, 24 semaines.
Ouais. C'est alors, je vous avoue que moi, j'ai totalement arrêté de lire Jujutsu Kaisen en livre. Parce que je comprends rien.
On te juge tous.
J'ai vraiment... Non, mais en fait, t'as lu, toi ? T'as essayé de le lire ?
Mais non, je veux pas.
Non, mais vraiment, on lit pas. Je ne comprends rien. Et j'espère, du coup, j'ai l'espoir que cette saison 2 va m'accompagner pour me faire comprendre ce qui se passe. Et si c'est pas le cas, je crois qu'on va avoir un gros souci. Après, j'ai regardé les chiffres de vente du manga de Jujutsu Kaisen au Japon. On est clairement sur une dégringolade.
Aïe, aïe, aïe.
Plus personne ne comprend ce qui se passe.
Je crois que tout le monde a abandonné. Pour vous faire court, il y a un moment où il y a un espèce de tournoi chelou qui s'appelle un peu comme la chasse, tu sais...
Hunger Games ?
Non, c'est une chasse chelou. Bah, vous verrez.
Le truc avec les youtubeurs ?
La chasse à court.
Non, c'est un truc avec un système de points. J'ai pas compris. J'ai cru qu'on était dans un jeu de simulation. Ouais, non.
Ok, je l'ai pas.
Et bah, vous verrez. J'ai pas compris. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais juste qu'on peut mourir. C'est un jeu très triste. Sinon, le vendredi...
Squid Game.
C'est peut-être... Non, je pense pas. Vendredi 7 juillet, il y aura Une zone à défendre sur Disney+. Un film français avec ça. François Civil.
J'ai rigolé à la blague de Damien.
François Civil.
Oui, bah, j'ai vu plusieurs fois la bande-annonce.
Vous ne voyez pas, mais est-ce que vous entendez mon sourire dans ma voix? François
T'aimes
Civil.
T'aimes bien François Civil?
Ah, j'adore. Alors,
vraiment,
François
qui
Civil.
N'aime pas François Civil, à part les gros jaloux?
Ouais.
En vrai, moi, je le trouve pas si...
Moi, j'ai aucun problème à dire que j'aime bien des gens.
Bah,
François
Civil. Mais je sais pas, il me laisse assez neutre. J'ai pas de...
Ah, mon sourire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui se passe?
Maintenant qu'il est plus policier, il va de l'autre côté.
Sur une ZAD...
Attends, il est policier. Toujours policier.
Sur une ZAD, Myriam se bat contre la construction d'un barrage. Greg, lieutenant de police, doit infiltrer cette mouvance contestataire. Il se rencontre et sème sur la zone. Le temps presse bientôt. Tout disparaître.
Je peux pas m'empêcher.
C'est ultra poétique.
Roméo et Juliette, les gars.
C'est pire que ça. Je peux pas m'empêcher de voir le scénario du premier Fast and Furious.
Ah, possible. Oui.
Brian O'Connor infiltre un gang de trafiquants de lecteurs DVD. Non, de lecteurs DVD. Hein.
Ah, on est bien. Là.
Et en fait, il se rend compte qu'il est dans ce camp.
Est-ce qu'il savait qu'un jour les lecteurs DVD allaient disparaître?
Non. C'était un business qui allait très vite s'effondrer.
Il les a gardés de côté, il s'est dit ça va prendre de la valeur.
Je vais vous faire une transition de 10 films. Heureusement qu'ils sont devenus agents secrets. C'est, les fins de mois sont beaucoup moins.
Elle était où la transition?
Bon, on passe de trafiquant de lecteur DVD à agent secret.
Ah oui. Ah bah, faisons ça.
J'aime bien ce genre de.
Entre les deux, il y a 9
level
films,
up.
Donc. Non, mais ouais, level up de ouf. Hein.
Ah, ça, oui, c'est une belle carrière.
Ouais, je trouve niveau carrière, vraiment, moi je veux un truc du genre. Hein.
Bah, va falloir commencer à trafiquer des trucs.
Actuellement, je suis libraire manga. Si quelqu'un a un autre truc à me proposer.
Ah,
en...
bah, dans 10 films, tu peux être agent secrète.
Je veux bien être présidente de la République.
C'est toujours
sinon...
agent secret.
J'ai pas trouvé mieux. Astronaute, peut-être.
Ah, oui, c'est ça.
Ah, j'ai un peu peur du vide. Non, mais.
Y a pas de moustiques au moins.
C'est
rien.
Vrai.
Il y a des aliens.
Il y a pas de moustiques dans l'ISS.
Il y a des aliens.
C'est le titre d'un roman un peu nul.
Il y a pas de moustiques dans les dans l'ISS.
Bon.
Bon bah sympa ce film. Hein. Sinon le lundi 10 juillet, il y a Sensuality Noir. Alors je comprends pas le mot. Saison 1 sur Disney+, qui fait 12 épisodes de 25 minutes, c'est un anime japonais 100 ans après qu'un poison mortel connu sous le nom de schiste bleu tomba du ciel, tuant tous ceux qui s'y étaient exposés. L'humanité a commencé à surmonter ce désastre en prenant la décision de retourner à la surface pour démarrer une nouvelle ère. Ouh là là, quelqu'un connaît ce manga ?
Non, mais a priori, c'est, ça sort en même temps qu'un jeu qui est lié à l'anime.
Ah, ça a l'air bien. Ou...
C'est Bandai Namco, donc c'est un gros truc.
Ok, ça marche. Ça me fait penser à un anime que j'avais vu quand j'étais jeune où les gens ils se transformaient à moitié en cristal et tout et que ça me faisait trop bader.
Je crois que c'est le premier anime japonais Disney Plus original.
Ouais, le jeu a l'air trop beau par contre.
C'est pas eux qu'on fait Journée Beyond Given? Ils sont juste diffuseurs?
J'en sais rien.
Le jeu est beaucoup trop stylé.
Bah, je crois que je sais pas. Hein, je sais pas. Mais Journée au Beyond Given, c'est déjà sur la plateforme. Mais peut-être qu'ils sont pas créateurs, ils sont peut-être juste diffuseurs. Ça serait plus logique. D'ailleurs, il faut que je regarde Journée Beyond Given. Regardez Journée au Beyond Given, une super dystopie. Un manga en 8 tomes actuellement.
C'est ta carte blanche.
Non. Mais j'attendais que tu me donnes d'autres informations, c'est tout. Ah, c'est...
ah bah c'est très beau.
Ah ok, c'est juste très beau. Bon bah continuons. Mercredi 12 juillet, il y aura Riche, sinon rien. Sinon rien.
Sinon que dalle.
C'est la saison 1 sur Disney Plus.
Les vénères.
J'avais l'impression qu'il fallait le dire comme ça.
Bah oui.
C'est 16 épisodes de 60 minutes. C'est un drama coréen. Un jeune homme pauvre qui échange sa vie avec un jeune homme très riche. Alors ça, le genre de drama.
C'est ta cam 8000.
Mais ma cam de ouf. Non mais en vrai c'est trop ma cam. Ça me rappelle un des premiers dramas que j'ai vu où c'était l'histoire d'une jeune fille. Elle faisait le ménage mais dans une famille riche. Et du coup elle tombe amoureuse des riches. Enfin du mec qui est riche et tout. Oh là là. Toute une histoire. Bah j'ai hâte de voir hein. Je vais regarder. 16 épisodes, c'est un peu long.
D'une heure.
T'aurais pu me trouver un truc un peu plus court.
Bah, on envoie un message à Disney+.
Ouais, on va faire ça. Sinon, jeudi 13 juillet, il y a Famille en Flammes, saison 1 sur Netflix, un thriller japonais. Flamme. Alors, normalement, c'est une série, mais j'ai pas le nombre d'épisodes. Famille en Flammes, c'est...
Oui, introuvable nombre d'épisodes.
Ouais, et, mais
il
c'est...
Il va peut-être pas le dire.
Je sais pas, ouais. Pour venger sa mère, accusée 13 ans plus tôt d'un terrible incendie, Anzu se fait embaucher incognito comme gouvernante chez celle qui est devenue sa belle-mère.
C'est un peu parasite.
Il s'avère que ce... Oui, c'est un peu dans le même genre. Et il s'avère qu'en fait, c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle pas Famille en Flammes, mais que j'ai lu cette semaine, qui est disponible chez Akata et qui est vraiment très très bien. Je vous le conseille. J'ai beaucoup aimé. Alors, je cherche le nom pendant... J'essaie d'être la plus rapide possible. Ça s'appelle Burn the House Down. Et c'est de Moiyashi Fujisawa. Et c'est disponible du coup chez Akata. Et le tome 2 va sortir... Je ne sais pas quand il sort. Mais vraiment, ça a l'air vraiment bien comme... en même temps, le tome 1 est sorti le 8 juin. Alors, il va falloir attendre un petit peu, je pense.
Ils ont sorti ultra vite une série.
En France.
Ah oui, ok. Bah, oui.
C'est toujours le même principe. C'est toujours un peu compliqué, ils l'ont rangé en Josei, ouais, pourquoi pas, 15 ans et plus, ça marche. Le tome 2 sortira en août, et vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Je sais que vous ne lisez pas trop de manga, enfin peut-être que vous ne pourrez pas lire celui-là, mais en tout cas, regardez la série, je pense qu'elle sera très bien. Et sinon, il y a La Loi de la plus forte, saison 1 sur Netflix, ça fait 8 épisodes de 30 minutes, c'est une comédie US adaptée du recueil d'essais de Michel Buteau. Une styliste noire qui décide de repartir de zéro après une amère rupture. Ça aussi, c'est ma cam. On va pas se mentir, 8 épisodes, 30 minutes, ça va être vite watching, bitchy watching.
Je suis presque sûre que c'est pas comme ça que
non, on dit binge watching. Je crois que j'ai écrasé le chien. Vendredi 14 juillet, Fondation saison 2 sur Apple TV+, 10 épisodes de 45 minutes, un mini-épisode par semaine. J'ai pas regardé la saison 1 parce que vraiment ça a l'air dur à suivre.
Non,
mais...
ça se mate bien. Hein.
Mais je trouve que Apple TV vraiment font des séries de ouf qualité. Mm. Là je suis en train de regarder Punchinko, les gars.
C'est juste lent, mais si oui, ça vous vrai. Va, une série lente, ça fonctionne bien.
Jeudi 27 juillet, il y aura la saison 3, volume 2 sur Netflix de The Witcher. Ça
mais
sera
attends,
3 épisodes.
On m'a dit n'importe quoi au début. Je disais que c'était demain que ça sortait.
Oui, mais c'est demain, mais c'est en deux parties encore.
Le volume 1 sort demain.
Damien, désespéré. Et vendredi 28 juillet, il y aura Good Omen, saison 2 sur Prime Video. 6 épisodes de 60 minutes, c'est trop bien.
Ainsi se termine le 32e épisode du Récapito. On espère qu'il vous a plu.
Oui.
Comme d'habitude, vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Insta de Plaid, sur nos comptes perso, si ça vous dit, parce que des fois on met des trucs marrants, des fois on met des trucs plus sérieux.
Je vous parle du fait qu'un moustique a piqué ma paupière ce matin.
C'est vrai. On fait des stories amusantes.
Et je vous fais des petites stories au travail où je lis des livres qui sont vraiment nuls.
C'est vrai que ça c'est très marrant. Ça fait une ou deux semaines que tu fais des reacts en story de manga nuls. J'aime
ah non,
bien.
Je dis pourquoi
oui,
ils
non, mais,
sont nuls.
Non, mais tu fais les.
Parce qu'ils sexualisent des enfants de 14 ans.
Mais moi j'aime bien les lire parce que je trouve ça marrant.
Les stories ou les livres?
Non, les livres. Les non, oh là là.
Il a pas lu le livre.
Les stories de Mathilde me font rire.
Oui,
et puis aussi, vous pouvez nous suivre sur le blog plaid.fr. On se retrouve dans un mois pour parler de Une zone à défendre.
Avec François Civil.
Mais est-ce qu'un jour ils vont faire un film avec Harry Styles? Ça sera encore mieux que François Civil.
C'est le frère de Thanos dans la MCU, donc t'inquiète, on va le voir.
C'est déjà fait.
Hein?
Bah, c'est déjà fait.
Ouais, mais moi, je veux sur Netflix. Pour juste dire. Aristide. Oh, oui.
Ah, un film qui va sortir. Je dois bien y avoir Dunkerque ou The Policeman ou un truc comme ça.
Faut qu'on regarde, oui.
Merci Mathilde.
Merci à vous.
Merci Damien.
Merci à vous.
À vous.
Salut.
C'est à vous maintenant.
Salut.